Au programme ce soir, une question qui va dominer véritablement l'émission. La pratique de l'hypnose peut-elle aider un témoin à mieux se souvenir de ce qu'il a vu? Autrement dit, peut-on, sous hypnose, récupérer des informations que l'on n'a pas enregistrées, peut-être consciemment? C'est une question qui fait débat dans de nombreux pays du monde. La justice américaine a été une des premières, à la fin des années 70, à l'admettre, cette pratique de l'hypnose, dans de nombreux États. Certains États ne permettent d'hypnotiser que des témoins et jamais des accusés, et toujours des personnes consentantes, mais d'autres n'hésitent pas à envoyer derrière les barreaux des criminels supposés et supposés avoir avoué sous hypnose leur forfait. En Europe, la justice fédérale belge utilise les techniques de l'hypnose dans un cadre très précis, très encadré, dont nous parlerons ce soir. Les personnes soumises à une séance doivent expressément avoir confirmé leur accord et un refus de leur part ne peut pas leur porter préjudice. En France, la réponse est claire et nette. Des propos tenus sous hypnose ne peuvent pas être versés dans un dossier judiciaire et même lorsque le consentement de la personne hypnotisée ne fait aucun doute, la justice refuse de prendre ces informations en compte. Elle a même ces dernières années déjà prononcé à plusieurs reprises des non-lieux et rendu la liberté à des personnes qui avaient pourtant avoué un crime, mais dans ces conditions. À 5 mois de son procès en appel, où elle risque une lourde peine de prison, Cécile Bourgeon, la mère de la petite Fiona, se livre actuellement, on l'a appris à la fin du mois de décembre, elle se livre actuellement à des séances d'hypnose dans l'espoir, dit-elle, de retrouver la mémoire du jour où elle a enterré sa fille dans une forêt de la région de Clermont-Ferrand. C'est une démarche personnelle, personne ne peut lui interdire de le faire, et nous allons en parler dans quelques instants avec son avocat, maître Renaud Portejoie du barreau de Clermont-Ferrand. Il nous dira comment se déroulent actuellement ces séances d'hypnose qui, paraît-il, ont déjà commencé. Voilà, l'hypnose et la justice pourraient-elles faire bon ménage? Nous ouvrons le débat ce soir dans l'heure du crime. C'est une émission spéciale hypnose et justice ce soir, à l'occasion de cette information que nous avons eue à la fin du mois de décembre, selon laquelle Cécile Bourgeon, la mère de la petite Fiona, qui n'a jamais jusqu'à présent réussi à identifier l'endroit où elle aurait, dans une forêt près de Clermont-Ferrand, enseveli le corps de sa fille après son décès. On a appris donc que Cécile Bourgeon, pour retrouver la mémoire, dans l'esprit de retrouver la mémoire, c'est ce qu'elle dit en tout cas, a commencé depuis quelques semaines, voire quelques mois, des séances d'hypnose, en se disant que peut-être cette pratique-là lui permettra enfin de lever cette dernière zone d'ombre importante du procès, parce que tant qu'on n'a pas trouvé la dépouille de cet enfant, on ne saura jamais dans quelles circonstances exactes elle est décédée. C'est donc une information très importante et nous allons la commenter, cette information, dans un tout petit instant avec maître Renaud Portejoie du barreau de Clermont-Ferrand, qui est l'avocat de Cécile Bourgeon. Mais auparavant, simplement, un petit document RTL très rapide qui remonte au 25 décembre, puisque c'est le jour où on a appris que Cécile Bourgeon avait pris cette décision. Écoutez les explications que donnait alors sur notre antenne Cindy Huber.
Ça fait longtemps que Cécile Bourgeon s'accroche à cette obsession. En 2013 déjà, quelques mois seulement après la mort de sa fille, elle prenait la plume pour demander au juge d'instruction de rencontrer un hypnotiseur. Une démarche sincère et désintéressée, assure ses avocats, pour tenter de donner une sépulture décente à Fiona. Mais ses courriers sont restés sans réponse. Depuis, Cécile Bourgeon est sortie de prison après une décision de la Cour de cassation. Elle a donc contacté elle-même un hypnotiseur et commencé les séances. Prochaine échéance dans ce dossier, son procès en appel. Cela devait être dans quelques semaines, ce sera finalement en mai prochain, puisque Cécile Bourgeon est enceinte de son 4e enfant. Elle vient d'ailleurs d'épouser le père de ce bébé à venir.
Le procès de Cécile Bourgeon s'ouvrira le 26 mai prochain. Ce sera le quatrième procès avec cette épée de Damoclès qui pèse au-dessus de son destin, en tout cas de son destin judiciaire. Elle a été condamnée à 20 ans de réclusion. Cette décision a été cassée par la Cour de cassation. Le prochain procès pourrait lui valoir une autre condamnation. Elle espère évidemment ne pas être condamnée et, comme dans le tout premier procès, ne pas être en tout cas accusée du meurtre de sa fille. Alors, elle a, de sa propre initiative, paraît-il, pris contact avec un hypnotiseur. On va essayer d'en savoir plus maintenant avec son avocat, maître Renaud Portejoie. Bonsoir, maître.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté de commenter, parce que ça a suscité beaucoup de curiosité, bien sûr, une polémique également, parce que ça, on y viendra tout à l'heure avec nos autres invités. Les avis sont pour le moins, c'est le moins qu'on puisse dire, partagés sur l'utilisation de l'hypnose dans des affaires judiciaires. Pour vous, vous dites que ce recours à un hypnotiseur est une bonne chose.
C'est une démarche qui est sienne, qui lui est personnelle, qui a commencé très tôt. Il faut se rappeler que lorsqu'elle a été mise en examen, initialement pas pour les coups mortels, mais uniquement pour non-assistance à personne en danger, elle a écrit d'initiative au magistrat instructeur, sans savoir que le droit français ne permettait pas cette désignation. Mmh. Elle a demandé à être vue par un instructeur en milieu carcéral, pour retrouver la mémoire et pour pouvoir désigner le lieu d'immersion de sa fille. C'est une démarche qui lui était strictement personnelle, qu'elle avait entreprise d'initiative quelques jours ou quelques semaines après son incarcération, initialement uniquement pour la non-assistance à personne en danger. Donc à l'époque, elle n'était pas suspectée d'avoir porté des coups sur sa fille Fiona. Et elle avait écrit, ce n'était pas par l'intermédiaire de ses conseils, elle avait écrit directement au juge d'instruction et elle avait demandé à être hypnotisée en milieu carcéral pour retrouver la mémoire et pour pouvoir désigner le lieu d'inhumation de sa fille. Ouais. Donc c'est une démarche qui n'est pas nouvelle, qui a plus de 6 ans et qu'elle met aujourd'hui concrètement dans les faits. Depuis qu'elle a été libérée, elle avait souhaité mettre cela en place et elle a entamé ce processus.
Oui, mais alors elle en est où actuellement? Parce que ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois qu'elle a débuté ces séances. Qu'est-ce que vous pouvez en dire?
Ça fait plusieurs semaines. Elle a été incarcérée quasiment 6 années. Il lui a fallu un certain temps pour se réhabituer à la liberté, au monde extérieur. Et elle avait souhaité, je le rappelle d'ailleurs aussi, de sa propre initiative, hors cadre procédural, voir un hypnotiseur, c'était très compliqué. Je pense que vous en discuterez, mais en milieu carcéral, c'est quelque chose qui n'est pas simple à mettre en place. Elle a pris quelques semaines et elle a entamé ce processus depuis l'automne. Il y a eu quelques visites chez un hypnotiseur, des séances qui ont débuté, mais tout ne se fait pas en une fois. Il faut un temps d'adaptation avec le praticien, il faut que les gens se connaissent, se fassent confiance pour que l'échange puisse permettre quelque chose. Donc c'est un processus qui est entamé.
Donc pour l'instant, il n'y a rien à en dire de plus, je suppose, sinon vous l'auriez dit. Pendant combien de temps va-t-elle poursuivre ses entretiens et est-ce qu'elle a toujours l'espoir d'arriver à retrouver des souvenirs?
Oui. Alors, il faut être clair, le temps qui passe ne joue pas pour elle. Bien entendu, je pense que nous en sommes tous conscients, mais c'est un souhait qui est le sien depuis le départ. Elle est obnubilée par cette idée qu'il n'est pas possible de laisser sa fille sans sépulture décente. Elle comprend parfaitement, comme moi d'ailleurs, que certains puissent s'interroger sur comment peut-on ne pas se souvenir où on enterrait sa fille. Donc, est-ce que ça ne relève pas de la malice? Je comprends ces interrogations qui sont légitimes. Après, elle a entamé cette démarche d'initiative et je reste persuadé que cette démarche est saine. Il n'y a aucun calcul. Je ne sais pas ce que les uns et les autres pensent de l'hypnose, mais même si vous appréhendez cette discipline avec la plus grande prudence, si véritablement vous avez quelque chose à cacher, vous n'avez pas envie de demander à un hypnotiseur dans un cadre procédural de révéler les choses.
De toute façon, sans langue de bois, on peut dire que quel que soit le procédé utilisé. Si un beau matin, elle dit voilà, j'ai enterré ma fille à tel endroit, j'en suis persuadé, qu'elle ait retrouvé la mémoire par une séance d'hypnose ou non, je doute que la justice hésite à aller au moins fouiller cet endroit pour en avoir le cœur net, quand même. Et c'est très important pour elle aussi, parce que c'est comme cela, si on retrouve le corps de cet enfant, même tardivement, même très tardivement, ce corps peut parler et peut permettre de mieux comprendre les circonstances dans lesquelles elle est décédée.
Bien entendu, c'est la particularité de cette procédure. Et ce qui a suscité beaucoup d'émotions, c'est qu'on ne retrouve pas le corps de cette fillette, ce qui alimente les fantasmes. Le vide, l'absence de corps alimente les fantasmes. Oui. Il est bien évident qu'il y a un intérêt strictement judiciaire à retrouver le corps pour pouvoir expliquer qu'elle a dit la vérité dès le départ.
Et pour l'instant, ce sera ma dernière question, maître. La justice n'a pas manifesté, j'allais dire, de réaction particulière à l'annonce du début de ces entretiens?
Non, il n'y a aucune réaction, tout simplement parce que le droit français n'autorise pas ces démarches dans un cadre procédural. Après, nous sommes dans une situation, en ce qui concerne Cécile Bourgeon, où elle n'a rien à perdre, où elle n'est pas là pour révéler quoi que ce soit, rien ne pourra lui être opposé. Mmh. Elle entame cette démarche qui lui est personnelle, qui ne peut pas lui être préjudiciable, et elle est absolument convaincue, encore aujourd'hui, après toutes ces années, qu'elle peut être aidée pour retrouver la mémoire et pour retrouver le lieu d'inhumation du corps de sa fille.
Je vous remercie beaucoup, maître. L'hypnose peut-elle faire bon ménage avec la justice? C'est une question qu'on se pose. On l'a dit, ça fait débat, évidemment. D'abord, ça fait débat et ce débat est parfaitement justifié parce que la justice parle, en tout cas la justice française, a parlé à plusieurs reprises de contrainte morale lorsqu'il lui était amené des propos qui avaient été tenus au cours d'une séance d'hypnose, même avec le plein accord de la personne qui se soumettait à ces séances d'hypnose. Nos confrères de France Info et de Libération notamment se sont largement penchés sur la question et ont découvert que l'hypnose avait été utilisée au moins 3 fois dans une affaire judiciaire en France. Attention, l'hypnose dans le but de faire se manifester la vérité. Une fois, c'était pour trouver éventuellement les numéros d'une plaque d'immatriculation dans une affaire où un gendarme avait été très gravement blessé. Une autre fois, c'était encore plus grave puisqu'il s'agissait là carrément d'une affaire de meurtre avec quelqu'un qui, à la suite de la séance d'hypnose, a fini par avouer à un psychologue par la suite. Mais le psychologue s'étant servi d'éléments qui avaient été donnés au cours de cette séance d'hypnose, la justice a décidé de ne pas mettre au dossier le contenu. Donc, c'est les informations obtenues même après, lorsque la personne a, dans un premier temps, avoué, puis s'est rétractée par la suite. Je ne rentre pas dans le détail de ces dossiers parce que c'est assez compliqué, mais ça montre en tout cas qu'il est, en France en tout cas, c'est un refus total au nom certainement du risque zéro pour ne pas faire en sorte que quelqu'un puisse dire qu'on lui a extorqué des aveux et qu'on a créé peut-être, pourquoi pas, on en parlera certainement tout à l'heure avec une spécialiste, des faux souvenir. Alors, je vous présente mes invités. Nous allons ce soir parler de tout cela avec d'abord celui qui est à côté de moi dans le studio d'RTL à Paris, Bruno Fulini. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes écrivain, historien, maître de conférences à Sciences Po, grand spécialiste aussi, il faut bien le dire, des faits divers d'hier et d'aujourd'hui. Dans un instant, on va aller faire un petit coup d'œil dans le rétro, parce que l'hypnose a aussi, ou aurait aussi, été utilisée par des criminels, oui, pour contraindre des gens à tuer, notamment, pour soumettre, en fait, des victimes, peut-être. Nous aurons Evelyne Josse, dans quelques minutes, qui est psychologue, hypnothérapeute et psychotraumatologue. C'est une personne très intéressante, parce que c'est à cause d'elle, en fait, que j'ai fait l'émission ce soir, parce que je suis tombé sur un dossier scientifique qu'elle avait établi avec d'autres spécialistes, et notamment aussi avec des témoignages sur le fonctionnement de l'hypnose judiciaire chez nos voisins en Belgique. Parce qu'en Belgique, selon évidemment certaines contraintes, bon, c'est très encadré, mais on peut utiliser l'hypnose dans des affaires criminelles. Et puis nous aurons à 20h45 le général François Daoust. Alors le général François Daoust, c'est l'ancien directeur des experts de la gendarmerie, l'IRCGN, et c'est l'ancien commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale. Il a été à ce poste entre 2009 et 2018, et il est par ailleurs professeur de criminalistique et de sciences criminelles à l'université de Cergy-Pontoise, donc c'est quelqu'un dont on a envie d'entendre l'avis, l'éclairage. Pourrait-on se servir, il faut parler au conditionnel, puisque actuellement la réponse est on ne peut pas se servir de l'hypnose. Alors, vous, quand je vous ai parlé de ça, tout de suite, vous avez réagi et vous avez pensé à deux affaires criminelles anciennes, oui, mais énormes quand même.
Deux affaires bien connues. D'abord, en 1889, l'affaire de la Malagouffée. Gouffée étant l'huissier de justice dont le cadavre a été transporté dans cette malle.
Première malle sanglante de l'histoire.
Celle-là a été partie. Particulièrement célèbre, ouais, parce que Gouffet, donc un huissier de justice tout à fait prospère, disparaît à Paris, ouais, et on va retrouver un corps en grande décomposition et les débris d'une malle à Millery, ouais, donc à une quinzaine de kilomètres de Lyon. Mmh. Et donc il fallait vraiment le génie d'un policier comme Goron pour faire le lien entre les deux affaires, lien qui a été confirmé par le célèbre professeur Lacassagne, donc vraiment le grand pionnier de la médecine légale. Au bout d'un certain temps, on finit par comprendre ce qui s'est passé. Cet huissier qui a disparu était un homme d'une cinquantaine d'années qui courait volontiers après les jupons qui passaient, et sa dernière connaissance, c'était une jeune femme d'une vingtaine d'années, assez mignonne, qui s'appelait Gabrielle Bompard, qu'on avait surnommée le petit démon. Elle a une petite mine chiffonnée, une drôle de tête. Elle avait sans doute quelque chose de très particulier. Et en fait, Gabrielle, pour aller vite,
elle avait servi d'appât.
Et donc, pensant passer une nuit agréable dans une garçonnière de la rue Tronçon du Coudray à Paris, il est arrivé. Cet huissier, il n'a pas vu que l'amant de cœur, Michel Hérault, était caché derrière le rideau, et Gabriel a attaché une sorte de cordelière au cou de son amant. L'autre derrière a mis un crochet, ils l'ont soulevé, ils l'ont pendu, en fait.
Elle lui avait présenté ça comme un jeu sexuel.
Exactement. Et en fait, il est mort pendu. Pourquoi ce crime? Tout simplement parce que cet huissier était riche et on pensait qu'en lui faisant les poches, on trouverait la clé de son coffre et on pourrait s'emparer de son argent.
Alors après, il y a eu un véritable feuilleton parce qu'ils sont partis.
Un feuilleton extraordinaire.
Même à Cuba, Et au moment du procès, cette jeune femme, l'avocat de cette jeune femme a dit, mais attention, elle n'est pas responsable, elle a été hypnotisée par l'assassin et donc elle a agi contre sa volonté.
Oui, c'est-à-dire que tout l'enjeu, c'est de savoir si Michel Hérault est le seul assassin ou s'ils s'y sont mis à deux. Elle était-elle une complice et jusqu'à quel degré? Et elle, un peu pour atténuer sa responsabilité, a déclaré « Cet homme, en me regardant, s'était emparé de ma volonté. À partir de ce moment, je ne fus plus moi. Je fus une chose à lui dont il disposait sans que je pusse même un instant discuter ce qu'il me commandait de faire. » Évidemment, pour la défense, c'était tout à fait intéressant.
C'est important, oui.
Et puis, il faut bien voir qu'à l'époque, il y a une vogue de l'hypnose. C'est le professeur Charcot à la Salpêtrière, partir de 1878, qui a utilisé l'hypnose de manière médicale. On n'est pas du tout dans l'hypnose de music hall,
on est dans une hypnose médicale.
À Nancy, il y a un autre professeur qui va prendre la défense de Gabrielle Bompard en disant il est évident que cette jeune femme a agi sous suggestion hypnotique.
La justice a cru ?
En fait, la justice n'a pas trop cru à l'excuse, mais a épargné Gabrielle Bompard. Elle a eu seulement 20 ans de travaux forcés, alors que Michel Hérault, lui, a été condamné à mort.
L'hypnose, la justice, les affaires criminelles, la manifestation de la vérité. Alors, c'est vrai que l'hypnose à la fois fascine, peut-être à cause du côté musical, quoi, parce que c'est très impressionnant. Il y a des émissions de télévision là-dessus. On s'aperçoit que quelquefois, des hypnotiseurs de music hall, encore une fois, réussissent à faire se souvenir à des gens des souvenirs justement qu'ils n'avaient pas au niveau conscient. Mais là, avec Evelyne Josse, on est très loin de tout ça. C'est une universitaire, psychologue, hypnothérapeute, psychotraumatologue également. Et on sait aussi combien l'hypnose peut apporter lorsque des gens ont subi des traumatismes très graves. Enfin, on va pas faire un cours sur les bienfaits de l'hypnose. Bonsoir, Evelyne Josse.
Bonsoir.
Oui, ce qui m'a beaucoup intéressé quand j'ai lu un article, ou en fait un dossier que vous aviez publié sur Internet avec d'autres spécialistes comme vous, parlant justement de l'hypnose judiciaire, de la notion d'hypnose judiciaire, en disant, en fait, pour aller très vite, que en Belgique, cette pratique est soumise à un protocole très très précis, très strict, mais qu'il est pris en compte, pour parler d'Europe, hein, et vous dites aussi que, bien sûr, c'est vrai qu'on peut créer des faux souvenirs à travers des séances d'hypnose, sauf que vous dites aussi que les faux souvenirs, on peut les avoir très bien sans avoir subi une séance d'hypnose, et que pour vous, l'hypnose devrait être prise en compte un peu mieux que ça dans le domaine judiciaire.
Oui, tout à fait. Hein. En fait, effectivement, je pense que l'hypnose apporte pas mal d'éléments neufs. Alors, les éléments ne sont pas évidemment des preuves, hein, au fond, en termes de justice, mais ce sont juste des éléments, hein, qui permettent, oui, après aux policiers et aux gendarmes de faire leur travail, aux enquêteurs de faire leur travail.
Oui, c'est-à-dire que nulle part on a considéré que ce qui se disait dans une séance d'hypnose était des preuves absolues, quoi.
Voilà, c'est ça. Hein, ce ne sont pas des preuves légales, donc oui, ce sont juste des éléments qui peuvent faire avancer les enquêtes. Oui. Alors, ce qui est différent par rapport à ce qui a été évoqué jusqu'à présent, c'est que nous, en Belgique, on utilise l'hypnose uniquement pour les personnes volontaires, mais victimes et témoins, et jamais avec les personnes qui sont auteurs ou suspects. Mm-hmm. On l'a évoqué, hein, c'est le droit au silence. Oui. Des personnes qui sont inculpées. Donc c'est vrai que déjà ça c'est très important, ouais, comme élément.
Oui, parce que, et donc le point de vue de la justice belge, c'est de dire pourquoi pas, mais encadrons tout cela, n'allons pas essayer d'obtenir des informations de quelqu'un qui nie par exemple, et même quelqu'un qui a avoué un crime, hein, c'est... À partir du moment où la personne est mise en cause, suspectée, elle ne bénéficie jamais d'une séance d'hypnose.
Non, parce que, donc, comme je l'ai dit, il y a sans doute le point le plus important, hein, c'est qu'effectivement on peut casser un jugement dans la mesure où on peut dire que la personne a avoué par des techniques où on l'a contrainte, si vous voulez. Et puis, de toute façon, on peut mentir sous hypnose, on peut faire semblant d'être sous hypnose, donc oui, on n'utilise jamais l'hypnose avec des suspects.
Donc, alors, vous dites vrai, bien, pardonnez-moi, je relève au passage, parce que ça vous paraît habituel, vous dites bien qu'on peut mentir sous hypnose.
Oui, bien sûr. On n'est pas hors contrôle, hein, en hypnose. Mmh. Enfin, ça dépend évidemment de à quelle profondeur d'hypnose, ouais, ouais, on est, hein, parce que les états hypnotiques, c'est très variable. Ça peut, ouais, aller, ouais, des états très légers à des états très profonds. Mm-hmm. Mais donc, oui, on peut faire semblant. Puis on pourrait utiliser... Moi, je me souviens d'une affaire où j'ai été impliquée, où ce monsieur voulait recourir à l'hypnose et on pensait bien que c'était pour pouvoir charger un autre coupable. Et pouvoir dire, j'ai avoué sous hypnose, donc c'est pas de ma faute, donc je ne suis pas une balance. Vous voyez, donc ça veut dire, d'accord, aussi que il peut y avoir des manipulations par rapport, ouais, aux auteurs ou aux suspects, ouais, par rapport à cet outil-là. Donc on est très très méfiant. Ouais. Alors ça, je parle évidemment, c'est dans le cadre judiciaire, ouais, dans le cadre de Fiona, hein, c'est une démarche privée que la maman fait, hein, donc ça c'est différent évidemment.
Oui, mais maintenant, ce qui est au centre de tout cela, et c'est la question que c'est pour ça que je voulais avoir une conversation avec une spécialiste comme vous ce soir, est-ce que vous confirmez que l'on peut, au cours d'une séance d'hypnose, se souvenir d'événements qu'on a vécus qui n'ont pas été retenus par la mémoire consciemment?
Oui, alors j'ai envie quand même de préciser un petit peu les choses. Donc, je dirais qu'il y a trois cas où ça peut se passer. Ce sont des événements, je dirais, d'apparence banale. Par exemple, une enquête où j'étais intervenue, il y avait eu un double homicide et les tueurs, en fait, avaient quitté le domicile avec des plantes, donc comme s'ils étaient, en fait, des vendeurs de plantes. Et donc, le témoin devait simplement faire un témoin, enfin, un portrait robot, mais de quelqu'un qui passait simplement dans la rue avec une plante. Donc, rien de particulier, c'est un fait banal. Donc, ouais. En fait, notre mémoire enregistre beaucoup plus d'éléments que ce qu'on retient consciemment.
Ouais, parce que là, si je vous comprends bien, on se servait de l'hypnose pour tenter d'établir un portrait robot.
Exactement. Alors, la deuxième chose, c'est qu'on peut avoir une vision en tunnel quand on a un choc émotionnel. Par exemple, si je vous pointe une arme, bien vous allez être tellement choqué par l'arme que vous n'allez plus voir que ça.
Bien sûr.
Ce qu'on appelle la vision en tunnel. Et donc, d'autres éléments qui peuvent parfois être beaucoup plus utiles à l'enquête vont être complètement oubliés de la mémoire consciente, mais peuvent être retrouvés en hypnose. Et le troisième élément, c'est l'amnésie traumatique, c'est-à-dire que quand on vit vraiment un choc qui est tellement important qu'il est traumatique, ça peut provoquer ce qu'on appelle une amnésie dissociative, c'est-à-dire qu'on ne va pas se souvenir partiellement ou totalement de l'événement.
Et là, on n'a aucune chance de retrouver la mémoire.
Bien sûr, si, tout à fait. Donc l'hypnose est à fait indiquée dans ce cas-là pour retrouver effectivement les éléments.
Alors, on parle de cette histoire de Fiona, parce que si on en croit son récit, qui n'est peut-être pas exact, mais on n'est pas là, nous, pour juger s'il est de l'ordre de la vérité ou pas, mais elle dit, en tout cas, on est parti en voiture, et puis nous avons enseveli le corps de la petite Fiona, dans une forêt près de Clermont-Ferrand. Il y a eu plusieurs transports, comme on dit, de justice, d'enquêteurs qui sont allés faire des fouilles. Elle était accompagnée de son compagnon qui lui-même a dit c'est peut-être là, mais il se trouve que c'était jamais là. Et là, maintenant, la question qui se pose, c'est que quand on a vécu, alors j'imagine que ce n'est pas une scène des circonstances qu'on vit sans une grande émotion, évidemment, si on va ensevelir le corps de son propre enfant. Mais est-ce qu'on a une chance de retrouver une mémoire partielle ou totale de ce qui s'est passé vraiment ?
Oui, mais bon, apparemment, elle a déjà fait plusieurs séances. Nous, en général, pour la justice, nous ne faisons qu'une ou maximum deux séances. Ah. Alors, ce sont en général des séances relativement longues. Mais normalement, on retrouve relativement vite des éléments. Mmh. Donc ici, évidemment, je ne connais pas le dossier, je ne vais pas me substituer à l'enquête, mais je ne sais pas s'il s'agit d'amnésie traumatique, parce qu'effectivement, ça peut être très traumatisant d'enterrer son enfant. En même temps, je veux dire, ça demande beaucoup de préparation, on ne choisit pas un endroit par hasard. Donc ça veut dire qu'il faut aussi, quelque part, être très présent à la situation. Alors c'était peut-être son compagnon qui l'était, hein, ça je ne sais pas. Alors évidemment, il y a aussi d'autres éléments. C'est peut-être une forêt qui était sombre, un endroit qu'elle ne connaissait pas. Puis une forêt, c'est tout désert. C'est pas très très facile non plus de reconnaître. Hein. Donc je ne sais pas. Mais... en ce qui concerne... cette affaire-là, mais donc oui, on peut retrouver des éléments.
Et c'est-à-dire que comment ça se... Pardonnez, on est très curieux tous. Hein. Est-ce qu'on essaye de se replonger ce jour-là, dans une voiture par exemple avec...
Oui, tout à fait.
C'est comme ça que ça se passe vraiment, c'est essayer de replonger la personne.
Voilà, on replonge en fait dans le vécu. Je dirais que quand on se souvient, c'est souvent des choses qu'on a vues, c'est beaucoup plus visuel. Quand on est en hypnose, on retourne avec toute notre sensorialité, comme si on y était vraiment. Donc, on pourrait dire qu'en hypnose, on revit davantage les choses. Ouais. Non, c'est pas vraiment se souvenir, c'est plutôt les revivre. Du coup, nous, par exemple, comme hypnothérapeute et comme hypnotiste pour la justice, ce qu'on fait, c'est vraiment essayer de retrouver des détails qui ne sont absolument pas indispensables à l'enquête, mais pour replonger complètement la personne dans la situation. Par exemple, effectivement, la voiture, la luminosité... et puis la température de l'air, et puis le bruit des pas, enfin les arbres. Vous voyez, je veux dire, on va vraiment ramener la personne avec tous ses sens dans la forêt pour retrouver des éléments, et donc on va effectivement retrouver davantage d'éléments comme ceux-là. Mais comme vous avez évoqué par rapport aux faux souvenirs, on va peut-être trouver de nouveaux éléments qui vont être corrects, mais on peut aussi en trouver qui ne sont pas fiables.
Voilà,
mais c'est inhérent à notre mémoire.
Ouais, bien sûr.
Alors... C'est-à-dire que même quand on se souvient à l'état de veille habituel, si vous vous souvenez de 6 éléments, il y en a peut-être 4 qui sont corrects et 2 qui sont incorrects.
Voilà. Et après,
c'est inhérent à notre mémoire.
Enquêter, revenir sur tout cela pour essayer de trouver la preuve de ce qu'on avance.
Voilà, c'est ça. Ce sont juste des éléments qui permettent de faire avancer les enquêtes.
D'accord.
Alors, je peux vous dire que pour avoir participé quand même à plusieurs dizaines d'enquêtes, que ça fait vraiment avancer les choses.
Je voudrais avec vous, Bruno Fulini, je pose même pas la question évidemment à Evelyne Joss, parce que je sais que il y a un débat aussi chez les hypnotiseurs, mais quand on demande est-il possible de faire franchir les barrières morales à quelqu'un, c'est-à-dire d'hypnotiser quelqu'un pour lui faire commettre un acte criminel, tout le monde vous dira non. Et pourtant, il n'est peut-être pas impossible que ce genre de situation ait existé dans le passé. Et puis, il y a aussi cette espèce d'hypnose flash, comme ça, qu'on voit au music hall souvent, qui pourrait permettre à une victime d'être soumise à son assassin. Et c'est ce... Alors là, vous m'apprenez quelque chose, vous dites c'est ce qui s'est passé dans l'affaire Landru.
En tout cas, ça a été évoqué, y compris au cours du procès Landru. Vous savez que Landru donc a été condamné à mort pour 11 assassinats, 10 femmes plus le fils de l'une d'elles. Mm-hmm. En fait, on n'a jamais retrouvé les cadavres et il n'a jamais avoué. Et on s'est demandé si effectivement il les avait tués, comment avait-il procédé. Toutes ces femmes ont disparu après avoir accepté de partir à la campagne avec lui, et lui dira qu'elles sont parties ensuite à l'étranger ou dans les colonies très loin.
Il avait pris qu'un billet allé. Hein.
Oui, il prenait un billet allé, on connaît bien l'histoire. Et puis surtout, on a retrouvé leurs effets, y compris des effets de toilette très intimes chez lui ou dans diverses remises. Donc bon, il a été condamné à mort. Et la question, c'était comment est-ce qu'il les tuait ? S'il les tuait, comment faisait-il ? Alors, une option, c'est évidemment, puisque c'était dans le cadre de relations amoureuses, il attendait qu'elles dorment profondément et il les étranglait dans leur sommeil. Mais il y a une autre hypothèse qui a été agitée pendant le procès, c'est qu'il les hypnotisait. Et ça s'appuie sur deux témoignages. D'abord, Landru avait une sœur qui était mariée, et donc le beau-frère de Landru, on est toujours trahi par la famille, hein, le beau-frère de Landru a expliqué que Landru avait des dons d'hypnotiseur. Et puis, surtout, beaucoup plus troublant, il y a ce témoignage de celle qui va être son avant-dernière victime, et qui, avant de succomber, a expliqué à sa sœur que Landru l'avait hypnotisé une première fois. D'accord. Et donc on a un témoignage très très précis. Il m'avait dénoué les cheveux, s'était extasié sur leur longueur, il s'est agenouillé devant moi, il se mit à me regarder. Oh, ce regard, je me suis mise à trembler. Et c'est vrai que Landru avait un regard très particulier, et ça, je crois que ça a beaucoup plu à la presse de l'époque, aux commentateurs de l'époque. On est très loin là de l'hypnose médicale et de l'analyse scientifique, mais c'est vrai que ce personnage avait un magnétisme particulier. Et donc on s'est demandé s'il n'avait pas pu utiliser l'hypnose, une forme de fascination, de suggestion, pour immobiliser ses victimes et les rendre à sa merci.
Nous évoquons le débat, voire la polémique sur l'utilisation éventuelle de l'hypnose dans le cadre d'affaires judiciaires ou criminelles. Alors en fait, c'est une question dont on connaît la réponse pour la France, hein, je le rappelle, on l'a dit au tout début de l'émission, la justice française n'accepte pas de faire entrer dans un dossier judiciaire des propos ayant été tenus au cours d'une séance d'hypnose. Je disais au début de l'émission que, d'après nos confrères en tout cas de Libération, il y aurait eu trois affaires en France dans lesquelles l'hypnose a été utilisée à un moment. Il y a eu des témoins qui ont été mis sous hypnose dans l'affaire des disparus de Perpignan, mais c'était pour essayer de lever le doute sur le fait que certains témoins avaient vu certaines des disparus à une certaine date, donc on voulait essayer d'être sûr que ces gens ne se trompaient pas dans la date. Et puis il y a eu une autre affaire beaucoup plus complexe, avec un marine soupçonné d'avoir étranglé et tué son épouse, un ancien militaire qui a fini par avouer à un psychologue, mais après une séance d'hypnose, et là la justice a décidé un non-lieu en fait, et n'a pas voulu que cette personne soit incarcérée. Et puis il y a eu cette histoire qui les gendarmes de la section de recherche de Rennes enquêtaient sur un braquage au cours duquel une femme avait été prise en otage et un gendarme grièvement blessé, et sous hypnose le gendarme avait vu celui qui était grièvement blessé, il avait vu la plaque d'immatriculation de la voiture, et dans une séance d'hypnose il s'est souvenu d'un certain nombre de numéros, pas toute la plaque bien sûr, mais là encore la justice n'a pas accepté de faire en rentrer ces éléments dans un cadre judiciaire en disant que, voilà, tout acte d'information utile à la manifestation de la vérité peut être employé, mais encore faut-il se conformer aux dispositions légales relatives au mode d'administration des preuves. On ne peut pas être plus clair. Bonsoir, général Daoust.
Bonsoir Jacques.
Bon, merci beaucoup d'avoir accepté de réagir à tout cela. Evelyne Josse la reprendrai dans un petit instant. Donc elle nous confirme en tout cas ce soir que la justice fédérale belge utilise de façon très encadrée ces techniques d'hypnose. Vous-même, j'ai rappelé que vous avez été le patron de l'IRCGN, vous avez été également le patron du pôle judiciaire, la police judiciaire de la gendarmerie, vous êtes professeur de criminalistique et de sciences criminelles à l'université de Cergy-Pontoise. Vous savez ce qu'est une enquête criminelle? Vous n'avez jamais eu la tentation, dans une enquête, de faire appel à l'hypnose?
Alors, faire appel à l'hypnose en tant que telle, non. Parce que l'hypnose peut avoir, au point de vue thérapeutique, des effets très, très importants sur la santé, sur le mieux-être, etc. etc. Mais il y a aussi tout un autre côté de l'hypnose qui n'est pas maîtrisé, c'est l'introduction possible d'éléments qui, initialement, n'étaient pas forcément dans la psychologie ni dans la connaissance du témoin ou de la personne que l'on interroge. Et du coup, eh bien, on risque d'induire de fausses déclarations qui sont vraies pour la personne qui les fait sous hypnose, mais qui ont été induites parce que c'est un souvenir transformé, etc. etc. Donc, d'un côté, les profils psychologiques, oui. De l'autre côté, l'hypnose, tant qu'elle n'est pas maîtrisée, pas encore.
D'accord. Donc, par exemple, pour un témoignage, si quelqu'un dit « mais j'ai une partie d'un numéro de d'immatriculation de plaque, et est-ce que sous hypnose je pourrais pas donner l'ensemble ?» À ce moment-là, la réponse, elle est simple, parce que là, c'est plus une question, j'allais dire, d'idéologie. C'est une question, la personne donne les numéros, et ils sont bons ou ils sont pas bons.
Oui, on peut le voir comme ça. Mais derrière, c'est est-ce que c'est un réel souvenir ou c'est quelque chose qui a été plus ou moins fabriqué par des circonstances ou autres. Donc derrière, après, on pourrait toujours vérifier, etc. etc.
Mais ça coûte de l'argent et du temps.
Ça coûte du temps. Mais bon, après, le fait que ça coûte un petit peu d'argent, ce ne serait pas le plus important. Ouais. C'est derrière la vérification scientifique que le témoignage qui ressort est un témoignage réel et non pas un témoignage induit.
D'accord. Donc pour vous, l'état actuel de la science, on va dire, de l'hypnose, n'est pas suffisamment convaincante pour que on puisse utiliser une séance d'hypnose dans le cadre d'une enquête criminelle, voire d'une instruction criminelle.
Alors, il faudrait, je pense, là, c'est moi qui m'avance, c'est le scientifique qui vous parle, que l'on encadre peut-être en s'inspirant aussi de la justice belge. Oui. Mais disons que si on peut contrôler les questions, on peut laisser la personne donner libre cours à un témoignage qui devient un témoignage circonstancié, par exemple, c'est « j'ai caché le cadavre à tel endroit, on vérifie, il y est », ça c'est différent. Ouais. Mais après, ne rien avoir et avouer, c'est autre chose.
D'accord. Et du côté de Fiona, quelle est votre réaction? Elle a décidé donc de faire appel à l'hypnose pour essayer de retrouver la mémoire de l'endroit où elle aurait enfoui le corps de sa fille.
Alors, je dirais pourquoi pas, parce que là derrière, si elle donne un lieu et qu'après vérification, on trouve le corps, eh bien, c'est ce qu'on appellera, in fine, un témoignage circonstancié. Seule la personne qui avait pu mettre le corps à cet endroit, ou les personnes, en l'occurrence, il y avait son compagnon aussi, oui. Eh bien, savait où elle était, donc elle a donné les éléments. Voilà.
Je vous remercie beaucoup de cet éclairage, merci infiniment. Merci beaucoup Evelyne Josse de votre éclairage tout au long de l'émission. Vous maintenez votre position, vous pensez qu'on devrait s'y intéresser un peu plus que ça en France?
Oui, il faut simplement effectivement encadrer, parce que le risque de faux souvenirs existe même à l'état de veille habituel. Hein. Elisabeth Loftus, qui est une psychologue américaine, sur plus de 20 000 personnes, a montré qu'il était possible de créer des faux souvenirs hors hypnose.
Ouais.
Et bon, c'est vrai que ça demande... une pratique particulière par rapport à l'hypnose qu'on
et pratique et d'aborder, d'aborder cela dans d'aborder tout cela donc avec beaucoup de calme et de sérénité. Je vous remercie beaucoup, Bruno Finini. Je voulais juste citer votre livre, Mes dossiers secrets, crimes, faits divers, espionnage, qui vient de paraître chez Flammarion. Très très beau livre, je le dis au passage. J'ai pas le temps d'aller plus loin, je suis déjà très en retard.